Papoua, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 30 août 2021. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari appelle à l'unité après des violences meurtrières dans la ville de Jos, dans le centre du pays. Soudan du Sud, la capitale Juba sous haute surveillance après une manifestation interdite par les autorités. Le groupe État islamique au Khorasan a revendiqué les tirs de roquettes sur l'aéroport de Kaboul, la capitale afghane. Ici aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans plongée dans le noir après le passage de l'ouragan Aïda, 1 million de foyers privés d'électricité en Louisiane. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Mali, la MINUSMA s'inquiète de l'aggravation des violences contre les civils qui ont fait plus de 500 morts au dernier trimestre. La mission de l'ONU au Mali note dans un rapport que les djihadistes imposent leur version rigoriste de l'islam dans certains secteurs du centre du pays. 54% des personnes tuées, blessées et enlevées l'ont été par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda et d'autres organisations djihadistes comme le groupe État islamique au Grand Sahara. Les milices et groupes d'autodéfense tels que le groupe de chasseurs Dogon, Damna Ambassagou sont tenus pour responsables de 20% des exactions. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a lancé un appel à l'unité pour tenter de mettre fin aux tensions dans le centre du pays. La région de Jos dans l'état du Plateau est en proie depuis des années à des violences ethniques et religieuses. Nathalie Barge.
Les tensions intercommunautaires se sont intensifiées dans l'état du Plateau depuis la mort de 23 personnes dans l'attaque d'un convoi de pèlerins musulmans. La police a accusé des Irigoués d'avoir attaqué ce convoi de 5 bus qui revenait de l'état de Bauchi. Un représentant de cette ethnie majoritairement chrétienne a rejeté toute responsabilité. Quelques jours plus tard, des hommes armés ont attaqué un village chrétien près de Jos, tuant au moins 18 personnes et incendiant des maisons. La violence punitive n'est pas la réponse, souligne dans un communiqué le bureau du président Muhammadu Buhari, appelant les communautés à s'unir contre ces attaques. En plus de la violence intercommunautaire dans le centre du pays, le Nigeria est confronté à l'insurrection djihadiste dans le nord-est, aux gangs de kidnappeurs dans le nord-ouest et aux velléités séparatistes dans le sud-est.
Le chef de la junte militaire tchadienne Mahamat Idriss Déby Itno a rejeté l'idée d'un retour au pays des mercenaires tchadiens qui combattent en Libye aux côtés des forces rivales, a annoncé la présidence. Le général Mahamat Déby a par ailleurs invité le gouvernement tchadien et soudanais à examiner ensemble de façon urgente cette menace commune. Au Soudan du Sud, une manifestation antigouvernementale prévue aujourd'hui à l'appel d'une coalition de groupes de la société civile ne s'est finalement pas tenue après le déploiement en masse des forces de sécurité dans les rues de la capitale Juba.
Malgré les appels à la population à sortir massivement, l'ambiance était calme ce matin à Djouba. Des forces spéciales ont patrouillé à bord de véhicules armés dans les quartiers très fréquentés de la ville. Les autorités avaient mis en garde ceux qui seraient tentés de participer à cette manifestation interdite. L'ambassade des États-Unis a demandé à ses citoyens d'éviter les zones où les manifestants sont susceptibles de se rassembler, les appelant à faire preuve de prudence. Une coalition de groupes de la société civile a appelé à manifester contre le régime actuel, décrit comme un système politique en faillite qui est devenu dangereux et qui a soumis le peuple à d'immenses souffrances. Ces dernières semaines, au moins 8 militants ont été arrêtés et 3 journalistes brièvement détenus. Cette journée de contestation coïncide avec l'inauguration du Parlement dit reconstitué, une des conditions clés de l'accord de paix qui a mis fin en 2018 à 5 ans d'une sanglante guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés.
Un membre de la coalition du peuple pour l'action civile, Wani Mikael, a déclaré que lui et 4 autres activistes ont décidé de se cacher pour éviter les représailles des autorités sud-soudanaises. Un prêtre camerounais a été enlevé dimanche par des séparatistes dans le sud-ouest du pays, une des 2 régions anglophones en crise, a révélé aujourd'hui le diocèse de l'otage. Monseigneur Julius Agbortoko, vicaire général du diocèse de Mamfé, a été enlevé par de jeunes gens qui se sont identifiés comme des combattants séparatistes, a écrit dans un communiqué le chancelier de ce diocèse. Les ravisseurs réclament une rançon de plus de 20 millions de francs CFA pour libérer l'otage. La Cour d'appel de Paris a jugé aujourd'hui recevable la demande de non-lieu d'Agathe Abiy-Harimana, soupçonnée d'être impliquée dans le génocide de 1994 au Rwanda et visée par une enquête en France depuis 13 ans. Cette requête a été jugée irrécevable pour des questions de forme. Agathe Kanziga, veuve de Juvenal Abiy-Harimana, le président Hutu dont l'assassinat le 6 avril 1994 avait déclenché les massacres contre la minorité Tutsi, est visée depuis 2008 par une enquête en France sur son rôle lors du génocide initié par une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda, CPCR. Scandale de la dette cachée au Mozambique, le fils de l'ex-président nie en bloc, accusé d'avoir touché plusieurs millions en pot de vin, il a été entendu aujourd'hui par la justice mozambicaine. Dans ce procès qui doit durer près de 2 mois, 19 personnes proches du pouvoir sont accusées de chantage, faux détournement de fonds et blanchiment pour des montants de plusieurs millions d'euros. La France va fournir 10 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 aux pays membres de l'Union africaine sur les 3 prochains mois pour accélérer la couverture vaccinale à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui l'Élysée. Les vaccins des laboratoires Pfizer-BioNTech et AstraZeneca seront alloués et distribués dans le cadre de l'initiative du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins et du programme COVAX.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les menaces visant à l'aéroport de Kaboul restent réelles et précises, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Pentagone, John Kirby, à la veille de l'achèvement du retrait américain d'Afghanistan. Le groupe État islamique au Khorasan a revendiqué les tirs de roquettes vers l'aéroport de Kaboul ce matin, à la veille du départ prévu d'Afghanistan de l'armée américaine qui procède à ses dernières évacuations. Le point avec Abdourah Amandia.
Il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi les victimes. La plupart des gens sont choqués, traumatisés, a déclaré un responsable de l'ancien gouvernement afghan renversé par les talibans. Mais plusieurs sources craignent un bilan plus lourd. Les hôpitaux ont été assaillis ce vendredi de personnes cherchant leurs proches disparus depuis la veille à l'aéroport. La situation semble calme à Kaboul, autour de l'aéroport où les vols affrétés par les Occidentaux ont repris. L'OTAN et l'Union européenne ont appelé après l'attentat à poursuivre les évacuations. La France a indiqué qu'elle pourrait les poursuivre au-delà de ce soir, tout en se voulant prudente au vu du contexte sécuritaire incertain. L'Espagne et la Suède ont annoncé avoir terminé leurs opérations d'évacuation, tout comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada et l'Australie. Les Britanniques promettent d'achever leur mission ce vendredi. Le gigantesque pont aérien a permis d'évacuer plus de 100 000 étrangers et Afghans.
Washington organise aujourd'hui une réunion entre partenaires à la veille du départ de l'armée américaine de l'Afghanistan, après 20 ans de guerre et un peu plus de 2 semaines après la prise de pouvoir par les talibans. Les discussions réunissent des représentants de la France, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, de la Turquie, du Qatar, de l'Union européenne et de l'OTAN. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'exprimera après la réunion pour faire le point sur les actions récentes des États-Unis en Afghanistan. L'ONU tient également ce lundi une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité sur la situation en Afghanistan. La Russie a appelé ce lundi à débloquer les réserves monétaires de la Banque centrale afghane gelées aux États-Unis depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays. Les réserves brutes de la Banque centrale afghane s'élevaient à 9,4 milliards de dollars à fin avril selon le Fonds monétaire international. Washington a indiqué que les talibans n'auront pas accès aux avoirs détenus aux États-Unis sans préciser le montant. Ici aux États-Unis, 16 ans jour pour jour après les ravages de Katrina, la Nouvelle-Orléans s'est retrouvée privée d'électricité lors du passage hier en Louisiane de l'ouragan Aida. Au moins une personne a été tuée, le point avec Yacouba Ouedraogo.
La tempête a déraciné des arbres et détruit des toits ou certains bâtiments et plongé dans le noir plus d'un million de foyers, selon le site Power Outage US. Nous n'avons plus d'électricité maintenant dans toute la ville. C'est le moment de rester dans vos endroits sûrs, a tweeté Latoya Cantrell, maire de la Nouvelle-Orléans. La compagnie d'électricité a indiqué fournir une alimentation de secours aux services municipaux. Le service météorologique a averti d'un risque d'inondation dans plusieurs zones, dont Jean Lafitte, où les digues ont cédé, selon Tim Kerner, maire de cette bourgade. Nous avons entre 75 et 200 personnes bloquées à Bataria, affirme M. Kerner. La Maison-Blanche a annoncé le déploiement de plus de 2000 spécialistes en intervention d'urgence et l'ouverture de refuges pour au moins 16 000 personnes. classé hier en catégorie 4, l'ouragan est retombé ce lundi en catégorie 1, selon les services météorologiques.
Voilà pour le journal, vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nathalie Barge.
La foire économique transfrontalière de l'Afrique centrale se clôturera demain après 10 jours d'activité à Kiyé aussi, dans le sud du Cameroun, à l'intersection avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Booster les échanges intra-régionaux pour la paix, le développement socio-économique et culturel. Tel est le développement de la 12e édition de la FOTRAC, organisée par le Réseau des femmes actives de l'Afrique centrale. Le Nigeria a lancé des formations pour les agriculteurs via la plateforme d'apprentissage Nirsal Farmers Business School. Ces formations sont disponibles dans plusieurs langues et accessibles hors connexion Internet. L'objectif est de renforcer les capacités entrepreneuriales et d'améliorer l'accès au financement. La plateforme aidera les agriculteurs à prendre des décisions en temps réel en fournissant des informations essentielles. L'essence au plomb n'est plus utilisée dans aucun pays du monde, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, saluant une étape majeure qui permettra de sauver chaque année plus d'1 million de vies et d'économiser plus de 2 400 milliards de dollars. L'Algérie, dernier pays à utiliser ce carburant, a épuisé ses stocks, a déclaré ce lundi l'agence onusienne à Nairobi, au Kenya.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Des nouvelles de l'Afrobasket qui se déroule à Kigali au Rwanda pour commencer. L'Angola met l'Égypte de côté et retrouvera donc le Sénégal en quart de finale. Les Angolais, 11 fois champions d'Afrique, ont battu les Égyptiens 62-70 et feront désormais face aux redoutables Sénégalais qui ont validé hier leur billet pour les quarts. Les Lions de la balle au panier, annoncés favoris, l'ont confirmé en étant d'ailleurs la première équipe à inscrire 100 points et qualifiée au bout seulement de 2 matchs, ce qui fait naître des rêves de titre du côté de Dakar, comme nous le rapporte notre correspondant dans la capitale sénégalaise, Seydina Abagui.
L'équipe nationale de basketball masculine fait jusqu'ici un parcours impressionnant. Les Lions ont enchaîné 3 victoires consécutives contre l'Ouganda, le Sud-Soudan et le Cameroun. Les poulains de Boniface Ndong confirment ainsi tout le bien que les observateurs pensent d'eux, une performance qui conforte l'équipe du Sénégal comme favori, nous dit Mamoudou Diop, un féru de la balle orange que nous avons rencontré au stade de Yoff à l'occasion du championnat de basketball catégorie des moins de 13 ans.
Tout d'abord, l'équipe
nationale du Sénégal de basket est très talentueuse. De jeunes joueurs ont été recrutés, une bonne chose qui apporte, il faut le dire, de la fraîcheur à l'équipe. On peut considérer le Sénégal comme prétendant du titre, mais il faut faire attention au Nigeria.
Avec à sa tête l'ancienne superstar du Sénégal et ancien joueur NBA, Boniface Ndong, l'équipe démontre une véritable force. Cependant, Alpha Diallo, amateur de basketball, estime que les Lions de la Teranga devront confirmer ses débuts prometteurs face à de gros calibres comme le Nigeria ou la Tunisie.
Il faut avoir l'honnêteté de dire que jusqu'ici, elle ne rencontre que de petites équipes. Attendons de la voir jouer avec les ténors. À partir de là, elle pourra conforter sa place de favori. L'arrivée de Boniface vient à point nommé. Il a su concilier jeunesse et
vétérans.
Cette remarque sur l'apport de Boniface Ndong est confirmée par Sekou Seydi, journaliste sportif présent à Kigali.
C'est toujours important d'avoir dans le staff des gens qui ont fait leur preuve, qui ont su mettre son costume d'entraîneur après avoir été un excellent joueur. Il y a un mix entre ceux qui ont évolué dans le haut niveau et quelqu'un qui n'a pas habillé. C'est lui qui avait l'équipe lors des fenêtres de novembre. Donc c'est plus facile quand même de faire passer le discours quand la personne qui vous parle a plus de vécu, plus de palmarès que vous.
Vainqueur de l'Afrobasket 5 fois, finaliste à 6 reprises et 5 fois médaille de bronze, les Lions n'ont plus été champions depuis 1997. Seydina Abagui à Dakar pour VOA Afrique.
Autre équipe qualifiée directement pour les quarts de finale, la Côte d'Ivoire qui n'avait plus atteint ce niveau depuis 2013. Les éléphants premiers du groupe C, après avoir battu le Nigeria 77-68, affronteront le vainqueur du barrage entre le pays hôte, le Rwanda et la Guinée, qui joue ce soir. La Tunisie, tenante du titre qui a fini en tête du groupe B, sera opposée au vainqueur du match du barrage Kenya-Soudan du Sud. Et puis le Cap-Vert premier du groupe A jouera le dernier quart de finale face aux qualifiés du barrage Ouganda-Nigeria. Ces 2 derniers matchs auront lieu demain.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Lutte contre le coronavirus au Gabon. Le gouvernement qui redoute une troisième vague d'épidémie a lancé une campagne de vaccination itinérante à Libreville. Elle se tient dans les grands carrefours de la capitale gabonaise. Le but est de toucher les populations encore indécises. Le reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Pour cette campagne pilote, le gouvernement s'est offert les services des associations communautaires pour sensibiliser les populations sur l'importance de se faire vacciner. Steve Chinga, président de l'association Six Gabon.
Il faudrait que la population adhère à la campagne de vaccination afin que le Gabon retrouve sa stabilité d'avant.
Dans un pays où plus de la moitié de la population s'informe désormais via les réseaux sociaux très marqués par l'influence de fake news, l'opération de vaccination contre le Covid en cours à Libreville peine encore à mobiliser grand monde. Boa Abidine fait néanmoins partie de la centaine de candidats au vaccin présents ce matin sur le site du Carrefour Rio à Libreville.
Il ne faut pas suivre les intentions des réseaux sociaux. C'est très important pour nous et pour la santé de tout le monde. Il faut que chacun vienne se faire vacciner. C'est très important. Parce que plus tard, ceux qui ne sont pas fait vacciner vont regretter plus tard. C'est plus important. Le gouvernement n'est pas pour nous demander de nous vacciner.
Entre le début de l'opération en mars dernier et mi-août, le comité national de vaccination indique que plus de 30 000 volontaires se sont présentés dans les différents sites pour recevoir le vaccin anti-Covid, dont 17 000 volontaires au total ayant reçu leur deuxième dose de vaccin. Des chiffres toujours pas assez convaincants pour dissuader les indécis comme Jean-Claude Mbombine.
Les Gabonais ont besoin d'être rassurés parce qu'ils sont sceptiques. Voilà. Et donc c'est au gouvernement de montrer le bon exemple. En admettant ce produit-là, ce vaccin-là, d'abord à eux qui sont au sommet de l'État.
Selon les autorités gabonaises, l'objectif recherché par la présente campagne est l'intensification de la vaccination communautaire conformément à la phase 4 du troisième axe stratégique du plan national de vaccination. Docteur Eulu Laika est l'un des superviseurs de cette campagne de vaccination.
Le message que je porterai aujourd'hui à la population gabonaise, c'est que les sites de caravanes de vaccination sont des sites de proximité qui ont été mis en place pour faciliter la vaccination de tous les volontaires.
Ces derniers jours, le pays a enregistré 26 nouveaux cas positifs sur 5662 tests réalisés dans 7 des 9 provinces du pays. Le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon faisait état le 25 juin dernier d'un taux de positivité de 0,4%. Malgré cette tendance baissière, le gouvernement se dit prêt à durcir le dispositif sanitaire actuel pour sauver des vies. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la fuite des cerveaux africains. Alors que le secteur de la santé est paralysé au Nigeria par une grève de plusieurs semaines, des centaines de médecins ont participé récemment à Abuja à un séminaire de recrutement organisé par l'Arabie Saoudite. Récemment, on évoquait cette réalité en Tunisie où les jeunes médecins aspirent à partir à cause des mauvaises conditions dans leur pays. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à retenir ces milliers de cadres qui quittent chaque année le continent où ils ont été formés? Nous allons en débattre ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En République démocratique du Congo, l'idée de rendre la vaccination obligatoire fait son petit bonhomme de chemin après la troisième vague de Covid-19. Le patron de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, Dr Jean-Jacques Mouyembe, a même donné son accord de principe, mais certains spécialistes ont de sérieuses réserves. Notre correspondant à RDC, Patrick Lupika, nous donne les détails sur une question qui a pris les allures d'un débat national en RDC.
L'option envisagée au printemps dernier se précise jour après jour. Vaccination obligatoire, c'est pour l'intérêt suprême de la nation, moyen très efficace pour garder en bonne santé les équipes médicales. Docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique national de la riposte Covid-19 RDC.
Dès le départ, nous avions dit que la vaccination est volontaire. Un infirmier qui refuse la vaccination et qui s'infecte, c'est tout à fait au début, et il va soigner les malades qui sont venus pour les paludes, pour la fièvre typhoïde. Mais parce que cet infirmier-là, il est contaminé par la COVID, il va transmettre la maladie à ses malades. Donc le personnel médical est là pour soigner les malades et non pas pour transmettre le virus de COVID aux malades qui viennent pour d'autres pathologies. J'adhère à cette idée-là de faire de la vaccination pour certains groupes une vaccination obligatoire. Et moi, j'en parle déjà avec mon personnel ici à l'INRB, puisque le personnel de l'INRB également est très exposé, d'abord avec la population et aussi par le travail qu'ils font au laboratoire. Ils sont exposés constamment. Et je pense que c'est l'occasion de demander que tout le monde à l'INRB soit vacciné. Et ceux qui ne seront pas vaccinés, à un moment donné, on dit, vous n'entrez pas en contact avec le patient ou bien dans les salles de conférence. Nous arriverons à cela et c'est nécessaire.
Longtemps réticente, la population prend les choses en main, elle se fait vacciner. Les chiffres du programme élargi de vaccination PEV-RDC sont encourageants. Docteur Jean-Jacques Mouyembe-Tanfon, coordonnateur du secrétariat technique national de la réponse COVID-19 RDC.
Nous avons déjà vacciné plus de 3000 personnes. Et ça, c'est vraiment un bon signe. Et au total, donc, nous avons 80 045 personnes qui ont reçu les deux doses. Pour la deuxième dose, pas seulement à Kinshasa, mais même en province. Pour la COVID, l'Union, CDC Afrique, l'Union africaine, pense qu'avec 60% de la population africaine vaccinée, nous pouvons protéger les 40% qui restent.
Les autres types de vaccins arrivent en RDC début septembre pour élargir ces processus sur toute l'étendue du territoire national. Kinshasa, Patrick Lupica, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, une grosse coupure d'électricité frappe la capitale depuis 24 heures. Les consommateurs n'ont pas de solution, car depuis deux semaines, Brazzaville connaît une importante pénurie de carburant qui rend inutile les groupes électrogènes. La société de production d'électricité parle de chute d'un pylône sur la ligne de transport du courant. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Dès 7h du matin dimanche, plusieurs quartiers de la capitale n'avaient plus d'électricité. Mais c'est dans la soirée que toute la ville est plongée dans l'obscurité jusqu'à ce lundi après-midi. Les hommes d'affaires sont aux abois. Et là, Dibril Boupaka est le patron de patron, président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo.
Et c'est incroyablement cacagné dans les restaurants. Tout est maintenant bloqué en stand-by. Les entreprises industrielles, mais les grandes menuiseries, rien ne marche. Les boulangeries, ça pose problème. Et cela fait que le secteur économique, secteur privé subit.
Les commerçants voient leurs affaires chuter en si peu de temps. Alphonse Ndongo, patron d'un restaurant, grève ses économies.
Et comme vous le savez, dans pratiquement toute la ville, il n'y a pas aussi de carburant pour pouvoir alimenter notre groupe électrogène. Tout cela parce que nous voudrions quand même garder l'essentiel de nos vivres dans une température tout à fait normale. Mais aussi, il faut accueillir nos clients. Donc c'est vraiment des dépenses inattendues, surtout en ces temps de crise.
De son côté, Patrick Mampouya, propriétaire d'un centre de formation en informatique où tout ne marche qu'avec l'électricité, tente des solutions à sa façon.
Là où est situé mon centre de formation, dès que j'ai ouvert le groupe électrogène, tout le quartier est venu pour charger son téléphone, c'est vraiment du n'importe quoi. On se demande, le Congo veut se développer, avec quelle électricité on va monter ces entreprises-là? J'ai vu, il n'y a pas longtemps, le Premier ministre qui est parti chercher des entrepreneurs en France. Oui, mais avec quelle électricité on va travailler?
Dans les rues de Brazzaville, les usagers du courant électrique grincent les dents.
Et tout ce qui nous reste, c'est d'aller dans différents marchés. Il y a quand même ceux qui ont des groupes électrogènes. Et c'est auprès d'eux qu'on essaie de charger nos téléphones. Et il faut donner 200 francs, il faut donner 300 francs. Et donc c'est une situation très triste.
C'est difficile, c'est dur vivre comme ça sans électricité. Et donc du coup, mon téléphone, je n'ai pas pu le charger.
C'est vraiment invivable. Donc pour rester connecté, j'étais contraint d'utiliser une énergie alternative. Donc j'ai un power bank qui me permet de charger mon téléphone quand il y a coupé l'électricité.
Officiellement, la société d'électricité explique qu'un pylône est tombé dans les environs de Pointe-Noire. Mais le problème peut également venir de la baisse des eaux qui impacte la production du courant électrique. Les Brazzavillois sont habitués aux coupures intempestives du courant. Mais cette fois-ci, la panne laisse Pontois de nombreux usagers. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Alors que les évacuations et le retrait militaire des États-Unis touchent à leur fin en Afghanistan, les décisions du président Joe Biden font l'objet d'un examen minutieux. Michel Quinn rend compte des critiques et revient sur l'attaque perpétrée la semaine dernière à Kaboul et qui a entraîné la mort de plusieurs militaires américains et de civils afghans. Récit Jacques Aristide.
Le compte à rebours est lancé pour les évacuations d'Afghanistan, mais l'administration Biden maintient qu'elle continuera à travailler pour faire sortir du pays les citoyens américains et les alliés afghans, même après la date butoir du 31 août. Un haut responsable taliban a déclaré que les gens seraient autorisés à voyager à l'étranger à l'avenir. Dans l'émission This Week de la chaîne ABC, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que la communauté internationale y veillerait.
114 pays ont clairement indiqué qu'ils attendaient à ce que les talibans autorisent les voyages après le 31 août.
Hier, le président Joe Biden a rendu hommage aux 13 militaires américains tués dans un attentat suicide la semaine dernière à l'aéroport de Kaboul. Plus de 100 Afghans ont également péri. Le retrait américain d'Afghanistan allait être risqué et chaotique, d'après l'administration Biden. Elle souligne l'évacuation réussie par avion de plus de 100 000 personnes au cours des dernières semaines. Pour des détracteurs, le locataire de la Maison-Blanche a fait de nombreux faux pas dangereux. Le sénateur républicain Lindsey Graham, lors d'un entretien dans le programme Face the Nation de la chaîne CBS.
Le président Biden a dit qu'il voulait régler le problème afghan pour les futurs présidents. Il fait exactement le contraire. Pendant les 20 prochaines années, les présidents américains seront confrontés à cette catastrophe.
Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, affirme que d'après les services de renseignement, les groupes terroristes en Afghanistan ne disposent pas de capacités avancées pour mener des attaques à l'étranger. Mais la crainte est qu'ils pourraient les développer. Jake Sullivan, lors d'une interview dans Face the Nation de CBS.
Ce que nous avons prouvé au fil du temps dans d'autres pays, c'est que nous sommes capables d'éliminer la menace terroriste, y compris les capacités de complot externe, sans une grande présence permanente sur le terrain.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken indique que les États-Unis vont prêter une attention particulière à l'Afghanistan, mais n'auront pas de présence diplomatique dans le pays.
Nous allons devoir voir exactement ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir en termes de comportement des talibans et de la situation sécuritaire dans le pays.
Anthony Blinken ajoute qu'il restera à voir si les États-Unis retourneront un jour en Afghanistan, un pays qu'ils ont occupé pendant près de 20 ans.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.